Tout de suite le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous reviendrons tout d'abord sur la vraie fausse démission de Gérard Collomb, nouvel épisode d'une rentrée agitée pour l'exécutif, analyse à suivre dans ce journal avec Stéphane Robert.
Une vaste opération antiterroriste menée à Grande-Synthe ce matin.
Et avec Cécile de Carvaz-Douay, nous chercherons à comprendre ce qui a conduit près de 200 policiers à perquisitionner le siège d'une association religieuse et les domiciles de ses principaux dirigeants.
Toujours en France, Thomas Cluzel, le Parlement s'apprête à adopter définitivement aujourd'hui le projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation.
Un projet qui manifestement ne fait pas l'unanimité, nous dira Anne-Laure Chouin.
À l'étranger, direction l'Allemagne tout d'abord.
Le gouvernement s'apprête à présenter aujourd'hui son compromis sur la marche à suivre pour les millions d'automobilistes détenteurs d'un vieux diesel trop polluant. Nous analyserons également la victoire hier aux élections législatives québécoises d'un parti nationaliste dirigé par un ancien homme d'affaires multimillionnaire et qui souhaite notamment réduire l'immigration. La troisième journée de la grand-messe annuelle des Tories, dominée aujourd'hui par le discours de Boris Johnson, est précédée de cet avertissement de la première ministre britannique ce matin qui dit envisager de rester à la tête du gouvernement pour le long terme. Enfin, nous reviendrons sur l'attribution ce matin du prix Nobel de physique à une femme et deux hommes, dont un français, Gérard Moureau, pour leurs travaux sur les lasers et l'optique. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec un essai brillant, celui de la sociologue Dominique Schnapper, la citoyenneté à l'épreuve de ses minorités. Elle est repartie de l'histoire de la minorité juive en France pour montrer à travers son intégration les vertus et les limites du projet démocratique. On pourra aussi interroger, et c'est ce qu'on fera en ouverture de l'émission, la figure de Charles Aznavour, 100% arménien, 100% français. Nous en reparlerons donc à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. Si Nicolas Hulot avait choisi d'annoncer sa vraie démission à la radio sans s'embarrasser des précautions habituelles d'usage, comprenez, sans en informer préalablement l'exécutif, Gérard Collomb lui avait choisi au contraire de mettre les formes en remettant hier sa lettre officielle au chef de l'État. Et manifestement, bien mal lui en a pris puisque ce dernier a aussitôt refusé sa démission pour, je cite, « mieux lui renouveler sa confiance ». Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors en réalité, depuis quelque temps déjà, les indices sur ses velléités de quitter son ministère de l'Intérieur nourrissaient régulièrement la rubrique Petites Annonces des journaux. Et puis surtout, Gérard Collomb, habituel relais discipliné de la parole élyséenne, avait surpris tout le monde en pointant du doigt ni plus ni moins que le manque d'humilité et d'écoute de l'exécutif. D'où cette question, Stéphane, par ce geste, Emmanuel Macron renouvelle-t-il véritablement sa confiance à Gérard Collomb ou bien punit-il en quelque sorte celui qui prétendait cultiver une relation quasi filiale avec lui?
Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a un problème entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb. Les deux hommes sont en froid et cette tension, ce ressentiment entre eux est le fruit de l'affaire Benalla. Gérard Collomb n'a pas compris, n'a pas digéré le fait de se retrouver en première ligne. Pour lui, c'est une affaire qui concernait l'Élysée et qui devait être gérée par l'Élysée. Or, c'est à lui qu'on a demandé les comptes. Il a été le tout premier auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée, obligé de se justifier pour une histoire qu'il estime ne pas être de son ressort. Il s'est retrouvé mis en difficulté, il a eu l'impression de potentiellement pouvoir servir de fusible et a eu comme un sentiment de trahison. C'est la raison pour laquelle le 18 septembre dernier, Gérard Collomb a pris de court le président de la République en annonçant lui-même sa démission et la date à laquelle il entendait s'en aller après les élections européennes. Raison pour laquelle également il avait dit quelques jours plus tôt que l'exécutif, entendez, chef de l'État, avait peut-être manqué d'humilité dans la gestion de cette affaire Benalla. Emmanuel Macron l'avait mal pris, comme il a mal pris le fait que le ministre de l'Intérieur lui remette sa démission hier. Emmanuel Macron qui n'entend pas se laisser dicter une décision et un agenda, il entend rester le maître des horloges et donc il y a sans doute dans le refus de cette démission une réaffirmation du lien hiérarchique entre lui et son ministre et une forme effectivement de punition. Gérard Collomb fera ce que décide le chef de l'État et au moment où il le décidera.
Et puis une autre question se pose, Stéphane. Emmanuel Macron peut-il se permettre tout simplement de laisser partir Gérard Collomb?
Et oui, ça c'est une difficulté supplémentaire pour le président de la République. Le contexte politique et l'agenda ne s'y prêtent pas du tout. Le chef de l'État rencontre une passe difficile. Un doute est en train de s'installer dans l'esprit des Français. Est-il en train de redresser le pays ou bien met-il en œuvre une politique qui favorise une partie de la population contre une autre? Autrement dit, est-il le président de tous les Français? Ou bien est-il le président des riches? Est-il également le garant d'une république juste et exemplaire? L'affaire Benalla a instillé un doute, là encore, sur le fait qu'il pouvait y avoir une forme d'impunité pour les hommes du président. Et puis le départ de Nicolas Hulot a fragilisé ce fondement du macronisme qu'est le « en même temps ». Sa démission a généré un doute sur le fait qu'on pouvait en même temps s'occuper d'économie et mener une politique en faveur de l'environnement. Le résultat, c'est une baisse continue depuis quelques mois de l'approbation des Français dans les enquêtes d'opinion. Et dans ces conditions, après le départ de Nicolas Hulot, le chef de l'État peut difficilement laisser partir un autre poids lourd du gouvernement sans donner le sentiment que les piliers de la Macronie sont en train de céder les uns après les autres et que le roi est nu. Par ailleurs, il y a la question du banc de touche. Qui pour remplacer Gérard Collomb à un poste aussi stratégique? On parle de l'ancien directeur de la police nationale, Dominique Pechenard, proche de Sarkozy. Alors, est-ce crédible? Matignon, nous dit-on, essaierait également de pousser l'actuel ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, mais à la veille des discussions sur le budget 2019 et surtout avant la mise en œuvre du prélèvement de l'impôt à la source début janvier, ce n'est pas possible. Pour toutes ces raisons, Emmanuel Macron ne peut pas aujourd'hui laisser partir Gérard Collomb. La question, bien sûr, est combien de temps va-t-il pouvoir maintenir sous perfusion un ministre de plus en plus contesté du fait qu'il a d'ores et déjà acté son départ?
Merci Stéphane Robert. Lui va partir définitivement. Lui, c'est Manuel Valls qui, en tant que député apparenté La République En Marche, fera ses adieux à l'Assemblée nationale cet après-midi avant de remettre donc sa lettre de démission officielle. Une vaste opération de prévention du terrorisme a été menée tôt ce matin à Grande-Synthe dans le Nord. Au total, 200 policiers, dont des agents du RAID et de l'ABRI, ont mené des perquisitions au siège d'une association ainsi qu'au domicile de ses principaux dirigeants. 11 personnes ont été interpellées, dont 3 placées en garde à vue. Cécile de Caravasdoué, bonjour.
Bonjour.
Alors l'association visée s'appelle Centre Zara France. Que sait-on sur ses activités?
Les statuts de cette association se veulent à la fois culturels et religieux. Sur son site internet, elle affiche vouloir faire connaître le message du prophète, traduire sa pensée, témoigner de ses œuvres. C'est une association qui s'est montée au début des années 2000, vraisemblablement en 2005 à Grande-Synthe, où son fondateur, un certain Yahya Gwasmi, vit depuis plus de 20 ans, aux côtés de 2 autres dirigeants, dont un commerçant de Grande-Synthe. Ces perquisitions ne sont pas une surprise. Depuis longtemps, le centre Zara est connu pour ses prises de position extrémistes. Précisons à la mairie de Grande-Synthe qui se refuse à toute déclaration mais répète qu'il n'y a aucun lien entre la commune et cette association qui mène des activités privées dans des locaux privés sur un terrain privé. Souvent d'ailleurs, devant le centre, il y a un service de sécurité à l'entrée, raconte la standardiste d'une des 220 associations de la commune qui précise, comme en mairie d'ailleurs, qu'il ne faudrait pas faire l'amalgame entre ce centre Zara et les efforts pour accueillir les migrants entrepris par nombre de bénévoles à Grande-Synthe. D'ailleurs, sur le site internet du centre Zara, il n'est pas vraiment question de migrants, mais plutôt d'une vision bien particulière de l'islam.
Ayant au départ créé des relations secrètes avec l'entité sioniste d'Israël, les Al-Saoud partagent avec eux une haine contre l'Iran.
Des vidéos de reportages, de prêches qui s'accumulent aux côtés d'articles et de communiqués du parti anti-sioniste. Car à la tête du centre Zara, il y a donc ce personnage trouble, Yahya Gwasmi, homme politique et religieux français d'origine algérienne, qui est connu des services de police parce que dans les années 80, il était soupçonné d'avoir participé à l'organisation d'un attentat soutenu par l'Iran. Yahya Gwasmi est depuis un des piliers du parti chiite de France et surtout le fondateur du parti anti-sioniste de France aux côtés de Dieudonné. Dans toute cette nébuleuse, finalement, le centre Zara n'est finalement qu'une discrète vitrine.
Merci Cécile de Caravasdoué. Le Parlement s'apprête à adopter définitivement aujourd'hui le projet de loi agriculture et alimentation, projet qui doit d'un côté permettre aux agriculteurs d'être mieux rémunérés et de l'autre d'alimenter plus sainement les Français. Du moins, c'était là l'objectif, sauf que personne désormais ne semble s'en réjouir. Agriculteurs, industriels, coopératives et même quelques distributeurs, tous se disent déçus. Pour autant, et surtout faute de mieux, ils appellent tout de même à l'application rapide des ordonnances issues de cette nouvelle loi. Et pourquoi? Parce que le temps presse, les négociations annuelles commerciales doivent en effet reprendre le mois prochain. Les explications d'Anne Lorchouin.
Oui, ces négociations doivent déterminer les contrats de vente qui lient agriculteurs, industriels et distributeurs pour l'année à venir. Et jusqu'à présent, elles étaient caractérisées par un fort déséquilibre. Les transformateurs et ou distributeurs arrivant presque toujours à tirer les prix au plus bas en gardant pour eux une bonne partie de la valeur du produit alimentaire aux dépens donc des producteurs, à quelques exceptions près. L'année dernière encore, alors que les états généraux de l'alimentation battaient leur plein et alors qu'Emmanuel Macron avait prononcé un discours fort où il insistait sur la responsabilité des acteurs pour engager des négociations équitables, ces négociations commerciales s'étaient très mal passées avec une pression encore accrue sur le premier maillon de la chaîne, l'agriculteur. Qu'en sera-t-il cette année? Les syndicats agricoles attendent beaucoup de deux ordonnances qu'ils souhaitent voir appliquer rapidement. Le relèvement du seuil de revente à perte, ou SRP, les distributeurs se verront obligés de revendre les produits alimentaires au moins 10% au-dessus de leur prix d'achat. Si cela peut éventuellement éviter une guerre des prix, rien n'oblige les distributeurs à reverser aux producteurs tout ou partie de la marge ainsi gagnée. Deuxième ordonnance, celle qui met fin aux promotions abusives, finit le « un acheté, un offert », des promotions qui permettaient pourtant aussi d'écouler des stocks d'invendus pour éviter le gaspillage. Il faut regarder la loi dans son contexte, argue le ministre de l'Agriculture, et ne pas oublier que depuis plusieurs mois, les filières travaillent ensemble pour arriver à construire des indicateurs de prix en dessous desquels l'achat serait considéré comme abusif. Là encore, confiance est donnée aux acteurs. Aucune règle du jeu n'est imposée. Parce que nous sommes dans un marché ouvert, plaide l'État. Au final, donc, une loi qui est plus un pari qu'une véritable réforme.
Le mondial de l'automobile accueille à partir d'aujourd'hui à Paris une industrie certes prospère, mais secouée par de multiples défis, les guerres commerciales de Donald Trump notamment, mais aussi le déclin rapide du diesel. Et c'est ainsi que cette année, tout particulièrement, les constructeurs miseront notamment sur l'électrification de leur gamme. Et c'est également dans ce contexte qu'en Allemagne, cette fois-ci, politiques et constructeurs tentent depuis des mois de trouver un compromis sur la marche à suivre pour les millions d'automobilistes détenteurs d'un vieux diesel trop polluant. Or, dans un pays où l'industrie automobile représente pas moins de 800 000 emplois, c'est peu de dire que ce dossier est devenu un véritable casse-tête pour le déjà très fragile gouvernement de coalition. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Berlin. Le gouvernement devrait finalement présenter aujourd'hui ses propositions et d'ores et déjà, on peut dire que la facture s'annonce salée pour les constructeurs, c'est-à-dire ceux-là même au fond qui avaient précipité la crise du diesel en trichant.
C'est l'industrie allemande qui a causé ce problème, l'industrie automobile, et c'est à elle de payer. Les mots de la ministre allemande de l'Environnement sont sévères à l'égard des constructeurs. Elle est social-démocrate, pas forcément d'accord avec son collègue ministre des Transports, un conservateur proche de Merkel. Mais après une très longue nuit de discussion à Berlin, ces deux-là semblent avoir choisi de combiner les deux options sur la table. Changer les pièces, comme un vieux pot d'échappement en un pot catalytique, une mise à niveau, autrement dit, des vieilles voitures, une solution qui ne convenait pas aux constructeurs, mais c'est comme ça, ils devront s'y plier. Deuxième option, la prime à la casse, en encourageant les propriétaires à changer d'auto pour un modèle moins polluant, neuf ou d'occasion. Volkswagen se dit prêt à assumer 80% des coûts, autrement dit 4 à 8 000 euros par voiture, idem pour Daimler ou BMW, prêt à participer jusqu'à 5 ou 6 000 euros. Le gouvernement de coalition devrait aussi être très tranchant dans le document que l'on attend aujourd'hui. Il souhaite que les constructeurs améliorent encore et toujours leur vieux modèle diesel. C'est du gagnant-gagnant pour ainsi rendre caduques les interdictions faites à certains diesels de rouler dans de plus en plus de centres-villes d'Allemagne. Tout ça, c'est encore de l'argent que l'industrie automobile va devoir investir, dépenser si elle veut se racheter après les scandales et offrir une image plus propre, plus verte.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Et puis j'ajoute que ce matin, le constructeur Renault s'est proposé d'offrir une prime aux propriétaires d'anciennes voitures diesel en Allemagne pour acheter un véhicule de sa marque moins polluant. Renault qui devient ainsi le premier groupe étranger à réagir donc aux pressions des autorités allemandes pour réduire les émissions polluantes du secteur automobile. Voilà trois jours maintenant que le rideau s'est levé à Birmingham sur le congrès du Parti conservateur, une représentation annuelle où Theresa May joue certes le premier rôle, mais où la question demeure de savoir quand et surtout comment quittera-t-elle la scène. Avant son discours de clôture, demain, aujourd'hui ce sera au tour de Boris Johnson de monter sur les planches. Celui qui officiellement consacre son temps à l'écriture d'une biographie de Shakespeare doit y prononcer un discours très attendu, dont chacun ne manquera pas d'ailleurs de déceler jusqu'à quel point il aura été inspiré par le dramaturge. Alors au-delà des intentions que certains lui prêtent de vouloir prendre la place de Theresa May, le nœud de l'intrigue se situe évidemment toujours autour de la question du Brexit. Depuis le refus opposé par les Européens au plan présenté par la Première Ministre, les conservateurs mettent en garde contre une absence d'accord. Le scénario d'un Brexit dur inquiète de plus en plus, et pas seulement au Royaume-Uni. Ce matin, le gouvernement français lui-même a dit se préparer au pire. C'est du moins ce qu'a révélé chez nos confrères de France Bleu Nord, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin.
Aujourd'hui, le gouvernement, à la demande du Premier ministre, est de préparer le no deal. comme s'il n'y avait pas de période de transition et comme s'il n'y avait pas d'accord avec nos amis britanniques. Il faut absolument qu'on se prépare au pire, c'est qu'au mois de mars, il n'y ait plus aucun lien juridique avec la Grande-Bretagne. Et c'est l'objet de mes très nombreux déplacements et de réunions dans la région. Depuis que je suis ministre des douanes, cela fait 15 mois, j'en suis à ma 7e réunion sur le Brexit sur le terrain, plusieurs réunions dans les Hauts-de-France. Ce qui est extrêmement important, c'est d'anticiper. Nous anticipons, le gouvernement le fait. 700 douaniers en plus, 350 rien que cette année. Les recrutements ont déjà commencé, il y a déjà plus de douaniers sur les ports de Calais, de Dunkerque et du Havre. Et ça dépendra aussi surtout de l'union douanière qui nous liera ou ne liera pas à la Grande-Bretagne.
Gérald Darmanin au micro de Cécile Bidot de France Bleu Nord. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Alors les inquiétudes exprimées par le gouvernement français quant à la perspective de plus en plus probable d'un no deal sont-elles justifiées?
C'est en tout cas envisageable, oui. Officiellement, Theresa May cherche des solutions. La première ministre l'a encore dit ce matin à la radio. Je suis là pour longtemps. L'accord commercial que le gouvernement propose est le seul qui réponde aux attentes des Britanniques et je vais proposer à l'Union européenne de nouvelles idées pour gérer la question de la frontière irlandaise. Voilà pour le discours. Le problème, c'est que les militants conservateurs à Birmingham n'y croient plus beaucoup. Plus d'un tiers d'entre eux veulent remplacer la première ministre par Boris Johnson. L'ancien ministre des Affaires étrangères surfe sur le populisme ambiant. Il s'est attaché les services de Steve Bannon qui a fait élire Donald Trump aux États-Unis et il propose maintenant de repousser la date de sortie de l'Union européenne de 6 mois, le temps de négocier un accord de libre échange avec Bruxelles, un accord sur le modèle de celui qu'a signé le Canada. Dans le même temps, ses partisans mettent l'accent sur la nécessité de fermer les frontières et cette pression à droite de la droite oblige Theresa May à durcir le ton sur l'immigration. Son équipe cette nuit a rédigé à la hâte un communiqué de presse pour expliquer qu'après le Brexit, seuls les migrants qualifiés venus de tout pays pourront s'installer au Royaume-Uni. Et au milieu de ces remous, pas sûr que les pourparlers avec Bruxelles aboutissent vraiment.
Merci Antoine Gignot, direct de Londres. Les incertitudes sur le budget italien continuent de fragiliser les marchés. Les bourses européennes ont ouvert en repli ce matin. Le spread, c'est-à-dire la différence entre les taux d'emprunt italiens et allemands, a lui grimpé. Il faut dire que le bras de fer se poursuit entre Rome et Bruxelles. Le gouvernement maintient sa ligne et use même de ton dur envers l'Europe. Nous ne bougerons pas d'un millimètre, a encore déclaré ce matin Luigi Di Maio, le leader du mouvement 5 étoiles. C'est une correspondance à Rome signée Mathilde Imberti.
C'est un Luigi Di Maio jusqu'au boutiste qui fait le tour des médias italiens pour défendre la première loi de finances du gouvernement dit du changement. Le budget sera présenté demain au Parlement, annonce-t-il, avec un déficit à hauteur de 2,4% du PIB sur 3 ans. Les investissements publics et la relance de la demande sont une priorité, argumente le vice-président du Conseil. Qu'importe les mises en garde de plusieurs dirigeants européens, Luigi Di Maio ce matin sur RTL 102.5, radio privée italienne.
Certains espèrent que le gouvernement italien fera marche arrière sur ce budget. Mais nous ne reculerons pas d'un millimètre. Toutes nos mesures feront repartir l'économie et nous reviendrons sur notre dette. S'il le faut, nous descendrons dans la rue pour expliquer ce budget.
Les dirigeants européens veulent faire chuter notre gouvernement, soutient encore le leader 5 étoiles. Il s'en prend en particulier à Pierre Moscovici, commissaire aux affaires économiques, qui ferait du terrorisme sur les marchés financiers pour porter préjudice au gouvernement de Rome. Le spread, l'écart entre le taux d'emprunt italien et allemand, s'est envolé ce matin. Les bourses européennes marque des signes d'inquiétude. Un mouvement d'humeur passager selon le gouvernement italien qui doit finaliser ses objectifs budgétaires ce soir et annoncer ses objectifs en termes de croissance et de dette.
Quand le Québec tourne la page de près de 15 ans de gouvernement libéral quasi ininterrompu, c'est évidemment un nouveau coup dur pour la famille politique du Premier ministre fédéral Justin Trudeau, mais c'est aussi surtout un événement dans un contexte de montée du nationalisme. Hier, celui qui promet notamment de passer des tests de valeurs québécoises aux immigrés sous peine de les expulser en cas d'échec, François Legault, a été élu pour diriger la belle province. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Son parti Coalition Avenir Québec, créé en 2011 et qu'il y a quelques semaines encore ne représentait que la troisième force politique de la province, disposera cette fois-ci de la majorité absolue à l'Assemblée.
Oui, vous savez, elle semble maintenant très loin, la petite phrase du général de Gaulle qui déclarait « Vive un Québec libre ». La page est totalement tournée, tellement tournée que l'indépendance du Québec n'a pas été un thème de campagne. C'est vous dire, et pourtant, le nouvel homme fort du Québec a été indépendantiste, mais c'était certainement dans une autre vie. Car si François Legault, ancien homme d'affaires, nouveau Premier ministre et leader de la coalition Avenir Québec a gagné, c'est parce qu'il a mené campagne sur deux thèmes assez aguicheurs. Le premier, c'est la taille de l'État qu'il faut réduire pour être plus efficace. Le second, l'immigration. avec un argument choc, celui de promettre la diminution de 20% du nombre d'immigrés. Cela représente 40 à 50 000 visas de moins par an. Un comble dans un pays qui frôle avec le plein emploi et qui manque cruellement de main d'œuvre, mais une évidence pour le chef de la très populiste coalition qui a su jouer avec la peur et la perte d'identité des Québécois. Il a expliqué vouloir protéger la nation, lutter contre le déclin de la langue française, une sorte de Québec first si vous préférez, décliné en direction notamment d'un électorat rural inquiet après l'accord signé entre les États-Unis et le Canada et qui libéralise une partie du secteur laitier. Et cela a fonctionné puisque son parti obtient la majorité absolue avec 74 sièges sur 125 que compte le Parlement. Les libéraux qui étaient majoritaires se consolent avec seulement 32 sièges, c'est vous dire. Justin Trudeau, le premier ministre canadien libéral, a salué la victoire du nouvel homme fort du Québec. Il a promis de travailler avec lui. Il n'oublie pas non plus qu'il devra remettre son mandat en jeu quand ? Eh bien, l'année prochaine, c'est bientôt. Et la défaite de son camp au Québec n'est pas de bon augure pour l'élection qui arrive au Canada.
Merci Nathanaël Charbonnier. En Indonésie, après le déchaînement des éléments, les survivants doivent encore affronter la faim et la soif. Les hôpitaux sont eux submergés par le nombre de blessés. Quant au secours, il manque d'équipements lourds. Selon un dernier bilan provisoire, le tremblement de terre et le raz-de-marée ont fait au moins 1234 morts. Le Parlement irakien élira probablement aujourd'hui un nouveau président de la République après avoir échoué hier à obtenir le quorum pour attribuer ce poste traditionnellement réservé à un Kurde et qui fait pour la première fois l'objet d'une bataille entre les deux partis historiques du Kurdistan. La Constitution impose que le président soit élu avant demain, mais au vu des divisions, le vote pourrait intervenir plus tard encore. Et puis une fois le président élu, il restera encore un poste clé à pourvoir, celui de Premier ministre. Après la médecine, hier, c'était au tour de la physique d'être récompensée ce matin par l'Académie du Nobel. Le prix 2018 récompense donc cette année pour moitié l'Américain Arthur Askin et pour l'autre moitié la Canadienne Donna Strickland, mais aussi le Français Gérard Moreau. Et pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Nicolas Martin. Bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors Nicolas, Gérard Moreau, vous le recevrez, je crois, tout à l'heure dans la méthode scientifique.
Aujourd'hui.
Qui est-il ?
Alors, le premier réflexe, hein, Thomas, c'est bien sûr de crier cocorico pour ce prix Nobel de physique attribué au Français Gérard Moreau, mais il faudrait y ajouter, vous venez de le dire, une sorte de cocorica, hein, puisque le prix Nobel a été attribué conjointement à Donna Strickland, qui est une physicienne canadienne avec laquelle travaillait Gérard Moreau. Ce n'est pas anodin, hein, dans le monde du prix Nobel, c'est seulement la troisième femme qui reçoit le prix Nobel de physique depuis 1904, avec Marie Curie en 1903 et Maria Goeppert-Mayer en 1963. C'est donc un jalon aussi historiquement assez important. Les travaux de Moreau et Strickland qui ont été récompensés concernent leur recherche sur le laser. Alors un laser, tout le monde sait à peu près ce que c'est un faisceau de lumière spatialement et temporellement cohérent produit par un système d'amplification. Parce que la lumière, celle que vous voyez, qui se trouve partout autour de nous, eh bien les photos, ils se diffusent naturellement. Il est donc complexe de produire ces faisceaux cohérents et encore plus complexe de leur donner de la puissance. Et c'est le sens des travaux de Moreau et Strickland. Ils ont mis au point un système CPA, Chirped Pulse Amplification, c'est-à-dire d'amplification par dérive de fréquence. C'est un système qui permet d'obtenir des lasers femtosecondes, c'est-à-dire une impulsion extraordinairement brève, hein, on est à 10-15 secondes, c'est 15 zéros après la virgule, un billiardième de seconde. Et ça permet d'obtenir surtout en parallèle une puissance proportionnellement inverse, c'est-à-dire une puissance en pétawatts, c'est-à-dire 15 zéros après le 1 cette fois. Alors quels usages pour ces lasers extrêmement rapides et extrêmement précis ? Eh bien, en recherche fondamentale, c'est essentiel parce qu'à cette rapidité et avec cette puissance, on peut éclairer, flasher si vous voulez, des mécanismes atomiques qui auparavant n'étaient pas descriptibles. On peut prendre en quelque sorte des photos du mouvement des particules élémentaires et de l'infiniment petit qui auparavant apparaissait comme quasiment instantané, notamment le mouvement des électrons qui est à portée de main, hein, puisque c'est l'attoseconde, c'est 10 puissance moins 18, on devrait y arriver grâce à ces travaux dans quelques années. Et puis dans le domaine des applications concrètes, on peut notamment parler du domaine biomédical par exemple. Ce système CPA a permis de rendre plus précise la chirurgie ophtalmologique, notamment pour la chirurgie réfractive de l'œil et les opérations de la cataracte, qui utilisent au quotidien, au jour le jour dans les hôpitaux, cette technologie CPA, donc imaginée par Moreau et Strickland, qui ont reçu donc le prix Nobel pour ces travaux.
Merci infiniment Nicolas Martin, et rendez-vous donc tout à l'heure à 16h pour la méthode scientifique.
C'est le prix Nobel.
Un mot rapide du temps pour aujourd'hui. Nuageux au nord de la Loire, plus lumineux au sud. Attention toutefois à la Corse où le ciel restera agité avec des pluies localement orageuses. Les températures, elles sont comprises entre 11 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.